Dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Vous savez, Antoine, parmi les migrants qui fuient la Syrie quotidiennement, et ce depuis 5 ans, eh bien, il y a beaucoup de chercheurs, des chercheurs en sciences sociales notamment, des gens qui travaillaient là-bas, en Syrie, à comprendre la situation, qui travaillaient à tout autre chose, mais qui aidaient aussi les chercheurs ici en France à comprendre ce qui se passe dans le pays là-bas, et non seulement qui aidaient les chercheurs d'ici, mais qui aidaient nous, citoyens, à mieux comprendre cette situation. Un colloque se tient aujourd'hui à Paris, aujourd'hui et demain, d'ailleurs à l'École des hautes études en sciences sociales, avec des chercheurs exilés, réfugiés en France depuis la Syrie, et des chercheurs français qui ne sont pas toujours d'ailleurs sur le sol français, mais qui sont aussi peut-être éparpillés sur le territoire européen, autour de cette coopération intellectuelle, scientifique, franco-syrienne, et de la nécessité de faire vivre la recherche en sciences sociales. D'où cette question que nous posons aujourd'hui dans la dernière partie. Comment parler de la Syrie? Comment penser la situation syrienne? Comment poursuivre la recherche sur la Syrie et en Syrie en temps de guerre et d'exil? À quoi peuvent servir les travaux de sciences sociales aujourd'hui? Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité l'une des organisatrices de ce colloque, Leïla Dakhli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS, au centre Marc Bloch à Berlin en l'occurrence. Et puis Nisrine Al-Azahar, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes, vous, exilée en France depuis 2 ans. Vous êtes actuellement en poste à l'université Paris 8.
Oui.
Vous avez un doctorat en sciences du langage. Vous avez obtenu ce doctorat à Paris, puis vous êtes repartie en Syrie, dans votre pays, où vous avez enseigné à l'université de Homs, puis à l'université de Damas. Et vous travaillez depuis ici, vous allez nous expliquer comment vous faites d'ailleurs, à faire connaître la société civile syrienne dans laquelle vous êtes toujours très investi, toujours très impliqué. Vous publiez d'ailleurs régulièrement des articles, des analyses dans divers médias, dans diverses revues du monde arabe. Bienvenue à vous. Je voudrais d'abord me tourner vers Leïla Dakhli pour savoir comment vous est venue cette idée du colloque? Quelle est son ambition? Quel est son but?
Alors, plus qu'une ambition, ce qu'on a ressenti, c'est une certaine forme d'urgence, même si on peut avoir l'impression qu'après 5 ans de conflit, ça arrive un peu tard, dans une certaine mesure. Il se trouve que la plupart d'entre nous, chercheurs travaillant sur la région et sur la Syrie en particulier, avons bénéficié pendant nos thèses et pendant nos travaux d'une structure de coopération d'instituts français et européens qui étaient installés sur le sol syrien et qui nous permettaient d'avoir des échanges sur place, mais aussi de les poursuivre régulièrement avec nos collègues syriens. On a été pris par d'abord l'urgence de la guerre, de l'arrivée des uns des autres, de l'observation un petit peu et de la stupéfaction face à ce qui se déroulait, j'allais dire sous nos yeux, mais en fait assez loin de nos yeux. On a mis du temps à s'organiser pour effectivement faire 2 choses, c'est-à-dire se retrouver et fabriquer un lieu dans lequel on pourrait continuer à travailler ensemble. Et aussi, il faut bien le dire, faire pression sur nos institutions et nos tutelles pour qu'elles garantissent et qu'elles réinvestissent les sommes qui étaient auparavant consacrées à la coopération dans le soutien à nos collègues et aux étudiants qui arrivent sur le sol français en l'occurrence, mais sur le sol européen, de manière plus générale, de telle manière qu'ils ne se retrouvent pas non seulement exilés, mais dépourvus de leurs outils de connaissance et de leurs outils de travail une fois ici, quoi.
Donc vous aviez parlé d'urgence, vous aviez besoin les uns les autres ensemble d'engager ou de poursuivre cette réflexion sur les recherches en sciences sociales concernant la Syrie aujourd'hui. Et puis peut-être aussi travailler, vous le dites, à pousser les institutions, mais intensifier cette idée de coopération, d'où cette idée de 2 jours de table ronde organisée avec des Français et des Syriens pour réfléchir à cette situation. Nisrine Al-Zahar, je me tourne vers vous pour avoir votre témoignage. Partons de là-bas, on va faire le chemin que vous avez fait peut-être, partons de là-bas pour venir venir ici en France. Là-bas, c'est donc la Syrie. Comment travaillez-vous sur place? J'ai envie de dire avant, après le déclenchement des hostilités, sachant en plus que les hostilités ont changé, ont évolué, et c'est aussi quelque chose sur lequel je voudrais qu'on s'arrête à un moment dans cette émission. Comment travaillez-vous? Avez-vous vécu depuis 5 ans les choses comme une rupture dans la façon de travailler pour vous?
Certainement, c'est une rupture. Rupture dans le sens du vécu de tous les jours. Et dans le sens politique aussi, et dans la pression, et la manière qu'on vit la pression exercée sur nous en tant qu'universitaires. C'est-à-dire, il y a toujours la pression politique, mais on pouvait avant y échapper. C'est-à-dire, on peut rester dans des marges honnêtes avec soi-même si on n'est pas très prétentieux, on n'a pas beaucoup d'ambition dans le cadre académique ou dans le cadre politique. Donc, enseigner, faire des petites recherches, mais rester à la marge. Après le déclenchement de la révolution, c'est devenu plus dur parce qu'il fallait manifester une position quelconque. Et tout se joue sur les hasards et les conditions dans chaque université. Si on est entouré par du personnel ou des administrateurs discret, plus ou moins honnête, on peut rester honnête avec soi-même. Mais si on vit avec du personnel académique agressif ou très loyaliste au régime, c'était très très dur.
Ça se passe comment? Il y a des demandes d'adhésion, d'allégeance au régime?
Tout à fait.
Qui sont demandées aux enseignants et aux chercheurs?
Parfois oui. Parfois, oui.
De quelle nature ça part officiellement ou de façon
indirecte? Ça dépend. Si on organise un événement, il faut qu'on parle manifestement. Il faut, par exemple, je donne un exemple. Pour les élections présidentielles en 2014, il y avait une grande pression sur les enseignants pour aller voter, entre guillemets, voter. Et à l'université de Damas, par exemple, c'était très explicite et très flagrant. Il fallait donc on surveillait les gens qui se sont pas déplacés au centre des élections au campus de l'université. Moi, j'avais plus de chance parce que j'étais dans un institut supérieur où il y avait moins de surveillance, donc j'y suis pas allée. Mais le doyen m'a appelé le lendemain, par exemple. C'est quelqu'un de assez bien. Mais il avait très peur. Il m'a dit, pourquoi vous n'êtes pas venu? J'ai dit, parce que moi, j'ai fini mon cursus avant. Donc, aujourd'hui, j'ai rien fait. Moi, j'avais prévu, en fait, d'être pas là le jour des élections. Donc, avec une collègue à moi, on avait fini le cursus avant. Elle m'a dit, mais c'était pas bien, c'était pas, j'étais très embarrassée parce que vous n'étiez pas là. Donc, ce genre de pression, il existait tout le temps. Et il fallait jamais parler avec les étudiants. Nous, on avait plus de chance parce qu'on passait par le canal du français. Donc, il y avait une barrière de protection qui est la langue. Donc, on pouvait parler en français politiquement avec nos étudiants. Mais voilà, ça reste limité quand même.
Donc, vous parliez de la pression. Oui. Avant le déclenchement de la révolution, oui. Puis de ces méthodes insidieuses, oui. Au sein de l'université même, oui. Après le déclenchement de la révolution. Oui. Et qu'en est-il de cette évolution même de la révolution? Vous dites, Nisrine Al-Azhar, que vous avez été obligée de manifester une position, une prise de position, quelle qu'elle soit, oui. Pour pouvoir continuer de travailler. Est-ce que de ce point de vue-là, en 5 ans, vous avez vu là aussi un changement, une évolution, une difficulté encore plus grande qui vous a conduit à venir, par exemple, en France en 2014.
Moi-même, j'étais pas. Moi, je pense en général. Je parle en général. Moi-même, j'étais pas obligée parce que j'arrivais à fuir ces situations où je dois manifester une position politique. Au contraire, moi, à Homs, par exemple, j'ai manifesté une position politique avec mes étudiants très claire dès les débuts de la révolution. Mais je suis pas une règle. C'est parce que j'avais des chances de pouvoir fuir ces situations. Mais en général, il y a une grande pression sur les enseignants. Avec l'évolution de la révolution, Mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste par ça? C'est-à-dire, est-ce que la position des enseignants a changé?
Oui. Est-ce que la position des enseignants a changé? Est-ce que les demandes dont vous parlez de manifester telle ou telle position ont changé aussi? Est-ce que les positions sont les mêmes? Est-ce que les positions ont bougé? Et là, je fais le lien avec ce qui se dit et ce qui se passe ici en France.
Alors, en général, il y a des cas individuels, bien sûr, mais en général, oui. C'est-à-dire, il y avait plus de pression de cette allégeance, pour cette allégeance au régime. Oui, tout à fait.
Mais est-ce qu'on peut continuer à travailler, à chercher de façon honnête, comme vous avez l'air de le dire aujourd'hui, dans ce pays en guerre complètement? Évidemment, vu de loin, on a l'impression que c'est impossible, mais on sait très bien que les situations locales sont différentes.
Alors là, par rapport à la recherche, il n'y avait pas vraiment de la rupture avant et après la Révolution. Donc, de toute façon, je ne suis pas représentative des sciences sociales en Syrie. Moi, je suis dans un domaine très théorique, qui est l'essence du langage, et que...
Apparemment moins politique aussi, de fait.
Ouais, au fond, c'est très politisé. Ouais. Mais bon, dans les pratiques méthodologiques, c'est pas très politique. Mais les sciences sociales, il n'y avait pas de la vraie recherche, en fait. Et dans ce sens-là, il y avait, pour moi, en tout cas, il n'y avait pas de rupture avant et après la Révolution. Donc, ce qui se faisait par exemple, dans les départements de sociologie, de sciences politiques et tout ça, c'est de n'importe quoi. C'est pas de la recherche, ce qui se faisait au moins de niveau, au moins au sens quantitatif du terme. Et même qualitatif, si les gens veulent, par exemple, interviewer les gens ou faire de l'observation participative, si je parle en termes méthodologiques, les résultats n'étaient jamais édités ou publiés dans des instances académiques. C'était très dangereux. On peut pas.
Et Leïla Daklissi, on élargit à la question des sciences sociales et de la façon dont on peut travailler. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre la difficulté de travailler sur place par rapport aux positions qu'on demande ou qu'on demandait quand Nisrine Al-Zahar y était aux chercheurs de tenir, et ces interprétations sur le conflit syrien qu'on voit poindre ici et là. Je parle en tant que citoyenne lambda qui écoute, qui lit les recherches, les travaux des chercheurs en sciences sociales. On a l'impression que il y a les partisans d'une lecture religieuse du conflit, de ceux qui disent que ça a toujours été une guerre ethno-religieuse, alors que certains disent non, c'était pas une guerre, c'était une révolution au départ qui a évolué en guerre. Certains parlant de la situation comme d'un face-à-face entre le régime et les djihadistes, alors que d'autres disent mais c'est oublié des millions de Syriens qui combattent au sein de la société civile. Est-ce que ces prises de position-là, vous les retrouvez ici, et c'est aussi ce sur quoi vous voulez axer, vous battre au sein de ce colloque?
Vous avez complètement raison de mettre ça sur le terrain aussi de la science qui est produite. Une des raisons pour lesquelles on a aussi accéléré la constitution de ces journées et de ce colloque, c'est qu'on sent aussi l'objet fuir. On a vu certains de nos collègues récemment participer à des voyages officiels et rencontrer le régime syrien sous prétexte d'accès au terrain. Donc se revendiquant d'une forme, disons, scientifique d'accès au terrain, tout en allant dans un cadre très très officiel, rencontrer les officiels donc du régime. Et on s'est dit que là, il y avait une pente glissante et qu'il fallait pas faire ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire rester extrêmement courtois et poli et considérer qu'après tout, dans le cadre de la science telle qu'elle se conçoit aujourd'hui au CNRS ou dans les universités françaises. Après tout, chacun travaille à sa manière et on le respecte, etc. Et donc, on a vu petit à petit, dans les années de conflit, se durcir une production scientifique difficile d'accès, complexe, cherchant à ménager aussi la complexité du terrain, les évolutions du conflit, et puis des productions, disons, de lectures simplificatrices, hein, je dirais, disant, voilà, ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des chrétiens en Orient menacés, Nisrine disait tout à l'heure, comme des pandas, une sorte d'espèce en voie de disparition, et finalement, ce serait le centre du conflit syrien. Et nous qui, non seulement, avons travaillé sur l'histoire du pays, mais aussi y avons vécu pour beaucoup, et je parle même pas de mes collègues syriens, mais y compris des chercheurs français, on a tardé à se dire que finalement c'était aussi sur le contenu qu'il fallait se battre et continuer à produire ensemble des travaux, des expertises pour expliquer à la fois la complexité réelle de la société syrienne, mais aussi déconstruire l'image d'un régime laïque, par exemple, qui est devenu une sorte de tarte à la crème, comme s'il avait un jour ou l'autre été la garantie d'une laïcité telle qu'on la connaît ici ou ailleurs. Ce genre de choses me paraissent être aujourd'hui des terrains absolument cruciaux pour qu'on ne finisse pas par engloutir dans des schémas binaires et simplificateurs tout ce qui est en train de se passer, continue à se passer dans la société syrienne.
Antoine ? Oui, justement, j'aurais bien voulu demander quand même à Nisrine Al-Zahar de nous dire quel récit elle fait de ce qui se passe en Syrie, de ce qui s'est passé depuis 5 ans en Syrie, en quelques minutes, si c'est possible.
Bon, sans vouloir simplifier les choses, parce qu'on ne veut pas être englouti dans des récits simplificateurs, mais les choses peuvent se dire d'une manière simple à mes yeux. C'était un soulèvement populaire, légitime, contre un régime dictateur qui est en place depuis 50 ans et qui a détruit partiellement la société civile, la politique dans cette société syrienne. Alors ce soulèvement a été réprimé d'une manière sauvage, barbare, avec une violence inouïe. Nous, les Syriens, on ne s'attendait pas à ça, en fait. Et après ça, il y avait toutes les dérives qui sont compréhensibles dans ce contexte de pression continue et avec une réaction tellement passive de la communauté internationale. Voilà le récit que je fais.
Alors ça, c'était le début, parce que maintenant, il y a aussi cette guerre qui continue avec des islamistes qui se sont emparés d'une partie du territoire. Est-ce que ça change la nature du conflit aujourd'hui ?
Ça change certainement. Donc ça rend le conflit, le mot conflit est un peu... Ça rend le conflit plus complexe, certainement, mais les causes sont toujours là. Donc on peut pas résoudre ces problèmes et l'emprise des territoires syriens par les forces islamistes si on ne traite pas les causes. Donc les causes sont toujours là.
Vous pensez qu'on a eu tort de ne pas bombarder au moment où les Occidentaux s'apprêtaient à le faire ?
Nécessairement, pas nécessairement. Moi, je ne suis pas trop fan des armes et des bombardements et des Tommy fusils et tout ça. Mais pas nécessairement. Mais je suis sûre qu'on aurait pu trouver une solution adéquate de riposte contre ce régime. Pas nécessairement. Moi, je ne sais pas. Par exemple, les instances juridiques dans la communauté internationale, la Cour pénale et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font au juste, pourquoi ils existent. Moi, je sais, je me demande. Donc, on traite un président de criminel de guerre contre l'humanité et tout, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Mais bon, en septembre 2013, j'étais à Damas. Je n'avais pas envie d'être bombardée. Mais certainement, il y a une solution.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Comment penser la Syrie aujourd'hui? Nous faisons l'écho d'un colloque qui a lieu aujourd'hui et demain à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, avec des chercheurs venus de Syrie, venus de France, pour réfléchir ensemble à cette coopération scientifique et intellectuelle nécessaire pour faire vivre la recherche en sciences sociales, malgré la guerre, en temps de guerre. Leïla Dakhli, quel est, selon vous, et compte tenu de ce que vient de dire Nisrine Al-Zahar, quel est selon vous l'apport aujourd'hui des sciences sociales et comment penser les choses en termes d'unité alors même que la communauté des chercheurs en sciences sociales sur la Syrie semble s'y diviser?
Alors, je ne ferai pas forcément l'apologie de l'unité, hein, je l'ai déjà dit auparavant, je pense qu'au contraire, on doit vraiment débattre. Et débattre avec nos armes. Nous, on n'a pas de, on bombarde pas, on n'a pas ce genre de de techniques, mais
est-ce que ça veut dire vraiment que est-ce que ça veut dire que dans le colloque, là, sur les deux jours de colloque, vous allez entendre ces chercheurs qui ont été reçus par Bachar al-Assad il y a quelques mois, qui faisaient partie de la délégation?
Non.
Est-ce que le débat va jusque-là pour vous? Non.
Non.
Pour quelle raison?
Non, parce que là, moi, j'attends simplement de savoir ce qu'ils vont produire à partir d'une visite de ce type-là. Je considère que c'est pas... Alors, ça viole beaucoup des... Non seulement des principes moraux, je voudrais pas juste m'élever là au nom de principes moraux, mais même simplement des règles de méthodologie qui sont les nôtres. Alors j'accepterais éventuellement de voir un article décrivant cet appareil, la manière dont on organise une visite de ce type-là, où on accueille des députés français, des représentants de l'extrême droite et quelques chercheurs, etc. Pourquoi pas, hein, une observation de ce type-là. Mais je ne crois pas du tout que c'était ce qu'entendaient mes collègues. Hein. Ils pensaient que c'était un vrai accès à un terrain dont on sait qu'il a toujours été difficile d'accès. Hein. Ça, Nisrine l'a rappelé, et elle a bien fait de le faire, hein, y compris pour nous autres historiens. Aller aux archives, c'était pas forcément... on n'avait pas toujours tout ce qu'on voulait.
Même avant la Révolution.
Même avant la Révolution. Hein. Donc déjà, effectivement, c'est à manier avec précaution. Donc non, la discussion ne va pas jusque-là. En même temps, quand je dis espace de débat, c'est vraiment trouver les moyens d'une réflexion sur justement comment aujourd'hui, je dirais même que les sciences sociales sont aujourd'hui plus importantes et plus développées qu'elles n'étaient du temps où je travaillais sur la Syrie pour ma thèse il y a 15 ans, puisque l'envie de comprendre la société, cette société qui s'est soulevée, est bien plus grande. Alors, c'est peut-être pas toujours sous le label scientifique, universitaire, que ça se trouve. Mais l'idée de ce colloque, c'est précisément d'offrir un cadre et de le développer autant que possible à l'échelle européenne pour que des chercheurs déjà installés ou qui l'étaient en Syrie et qui ne le sont plus aujourd'hui, mais aussi des jeunes étudiants qui voudraient travailler avec les méthodes des sciences sociales puissent le faire avec des gens qui sont restés sur place ou depuis
l'Europe. Mais sur quel sujet, notamment?
Avec la liberté qui serait la leur dans ce cadre-là. L'idée, c'est vraiment de leur offrir la liberté, de leur dire, voilà, vous pouvez... Et ça commence par une chose, qui est cette question de la langue, évidemment. Le colloque est entièrement traduit en français et en arabe. Et c'est aussi pour laisser les gens parler aussi dans leur langue, leur laisser la capacité de développer leur pensée en liberté dans leur langue. Et c'est un des aspects importants de ce travail qu'on fait, c'est de traduire, de donner accès aux travaux de nos collègues qui sont qu'ils aient été faits à l'intérieur de l'université syrienne ou pas, c'est pas forcément le critère. L'idée, c'est de savoir qu'il y a des choses qui sont produites, il y a des réflexions, il y a une réflexivité de la société syrienne qu'on veut aussi donner à voir.
Nisrine Al-Zahar, je vous demandais comment vous travailliez quand vous étiez encore en Syrie, comment vous arriviez à travailler. Et Antoine vous posait la question aussi malgré les bombes, tout simplement, hein, malgré la difficulté de la vie quotidienne sous la guerre. Quand vous êtes arrivé ici et aujourd'hui que vous êtes en France depuis 2 ans, comment regardez-vous ce qui se dit, ce qui se produit, les débats qui ont lieu sur la Syrie, les analyses qui sont produites sur la situation en Syrie, pour reprendre la lecture simplifiée ou simplificatrice qu'on voit traditionnellement, c'est-à-dire entre cette lecture, disons, plutôt religieuse des choses et cette lecture qui met en avant plutôt la dérive politique ou les causes sociopolitiques. Comment voyez-vous l'évolution de ce débat en France, cette fois, avec votre regard de Syrienne?
D'abord, je ne peux pas prétendre que je couvre tout le discours politique dans les médias français, parce que moi aussi, je suis prise par le quotidien, même ici en France, pour me stabiliser, pour avoir un statut, pour être stable. Mais bon, de ce que je suis dans les médias et dans la presse, je vois qu'on est... il y a plus en plus un déficit dans la mémoire des gens, partout dans le monde. Donc on oublie, on est dans l'instantané. Voilà, donc il y a le petit enfant Ilan sur les côtes turques. Et voilà l'hystérie de la mobilisation pour recevoir plus de réfugiés. Et 2 mois après, on a complètement oublié ça. Donc au moins l'élan de cette mobilisation s'est éteint un petit peu. Voilà. Donc il y a toujours l'instantané qui régit sur le discours. C'est ce que je ressens en tant que humain. On oublie de lier les choses, on oublie qu'il y avait un soulèvement, on oublie qu'il y avait un dictateur depuis 50 ans. Et on oublie qu'il y avait des massacres dans les années 80. Et on oublie que cette société, elle a beaucoup subi de ce régime. Donc il y a l'oubli qui est là.
Et plus en Occident que finalement en Syrie même,
cet oubli. L'oubli ?
Oui.
Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à ça. Je n'ai pas pensé à ça, mais je le sens ici. Je sens qu'il y a un oubli et il y a une fatigue aussi. Donc on ne voit pas l'interdépendance entre les faits partout dans le monde. Donc il y a des événements qui se produisent, des attaques qui se produisent, mais on oublie que tout est interlié dans le monde. Et dans les récits qui sont plutôt présents dans le discours politique, il y a toujours cette incompréhension de l'Orient. Donc le mot Orient, il est là même s'il ne se manifeste pas, mais il est là dans la compréhension de la situation. Donc
C'est-à-dire
c'est tellement compliqué. Et là, c'est très compliqué dans cette région du monde.
La clé est là pour nous dire sortons de la lecture simplificatrice et regardons la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire plus très complexe.
Je n'ai pas dit que c'était compliqué.
Mais c'est compliqué, c'est pour désister à comprendre. En fait, ou aller plus loin. C'est pour cela qu'on dit parfois que c'est compliqué. Et il y a des confessions, il y a une mosaïque très compliquée en Syrie. Et voilà.
Des enjeux géopolitiques.
Des enjeux, voilà, le pétrole, gaz, Qatar et tout ça. Donc c'est tout le temps ça. On oublie les gens, en fait. Mais on n'oublie pas qu'il y a un patrimoine archéologique très important et que la Syrie et Damas et Alep.
Ça vous a choqué qu'on s'occupe plus de Palmyre que du peuple syrien ? Enfin. On a l'impression parfois de...
Rien ne me choque, en fait. Le mot choc est très, très fort pour moi. Rien ne me choque maintenant, en fait. C'est une forme de cynisme, c'est comme ça. Donc non, ça ne m'a pas choquée, mais j'ai méprisé, en fait, un petit peu. Que les gens ne comprennent pas qu'à Palmyre, il y a des gens, et en Syrie, il y a des gens aussi, pas seulement des pierres. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à Jupiter, au temple Jupiter à Palmyre. Non, bien sûr, c'est mon patrimoine, c'est mon identité, en fait. Ils sont en train d'effacer une composante identitaire à moi-même. Donc, ça me choque de détruire Palmyre, mais ça me choque aussi qu'il y a des barils sur Douma.
Nisrine Al-Zahar, je demandais à Leïla Takli ce qu'elle pensait de l'apport aujourd'hui des sciences sociales, aujourd'hui vraiment en 2016, et de cette urgence de la coopération scientifique franco-syrienne. J'ai envie de vous poser la même question. Qu'est-ce que vous attendez de la production, du travail, des sciences sociales? Est-ce que pour vous c'est une meilleure compréhension des choses? Est-ce que c'est un réconfort de vous dire qu'il y a des échanges possibles? Est-ce que c'est pour le travail, pour votre travail, que ça permet un enrichissement? Qu'est-ce que vous en attendez, vous?
Donc je vais parler en tant qu'observatrice, parce que je ne peux pas me considérer vraiment dans les sciences sociales. Donc
sciences du langage, hein, le rappelle.
Donc c'est parce que les sciences sociales sont plus importantes maintenant, c'est ça l'enjeu. C'est pour cela que je suis très prudente en disant que je suis observatrice de loin. Donc c'est un reconfort, c'est une manière de réagir aussi. C'est la seule manière de réagir pour un universitaire. Donc qu'est-ce qu'il peut faire à part travailler ou donner un sens à ce qui se fait maintenant? Et puis, il y a un désir interne aussi de préserver quelque chose. Donc le travail dans les sciences sociales, mettre une trace écrite sur ce qui se produit dans une destruction massive comme ça, c'est un instinct de préservation aussi. Moi, je le sens comme ça. Donc travailler sur la mémoire collective, sur les récits des gens, sur tout ça, c'est ça.
Vous avez écrit une thèse, la structure du groupe verbal en arabe, sous-titré « Trois arguments empiriques en faveur d'une vision syntaxique de la structure argumentale ». Et vous disiez, tout ça c'est politique. En quoi c'est politique?
Non, en soi, comme ça, quand on le regarde de loin, c'est pas politique. Mais un linguiste ne peut pas ne pas être politisé. Il voit les choses dans la langue.
En fait, on voit le fond.
Dans la thèse.
C'est ça. Ouais. Non, je comprends. Ouais, non, mais c'est évidemment pour faire ce contraste, cette allée venue entre votre travail extrêmement spécialisé et malgré tout, le fait que précisément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les sciences du langage, on touchait souvent très de très près des analyses,
plus politisé qu'il
des analyses qui explosives.
Oui, mais pas le contenu lui-même dans cette thèse. Dans cette thèse, non, je parle de nominatif, accusatif et tout ça. C'est pas politique, mais c'est-à-dire cette méthodologie de voir. Parce que en quoi consiste une méthodologie en sens du langage? C'est de voir des généralités, avoir des schémas abstraits à partir de ces généralités. Donc, on est très habitué à l'observation en sciences du langage.
Décidément, vous êtes une grande observatrice. Leïla Dakhli, sur cette question du langage?
Non, mais ça me donne envie de réconcilier les sciences humaines et sociales. Je pense que bon, les sciences sociales ont, depuis un certain temps, été considérées comme, disons, celles qui pouvaient lire la société. Moi, je pense que, de fait, les linguistes, c'est pour ça que je parlais de la traduction tout à l'heure. Je crois qu'on a, aussi tout un travail qu'on appelle, qui est lié aux sciences humaines. Et ça serait pas très surprenant que par les sciences humaines, on finisse par comprendre la commune humanité, c'est-à-dire sortir de cette idée que c'est compliqué, c'est pas pareil, mais essayer de traduire, de transférer, de comparer, et ce qu'on fait en sciences sociales, mais ce qu'on fait presque encore plus dans ce qu'on appelle les humanités traditionnellement. Donc je pense que il ne s'agit pas d'isoler les sciences sociales et de leur donner un statut particulier à mon sens.
Et finalement, quand on lit par exemple les communiqués de Daesh ou la littérature de l'État islamique, est-ce qu'on n'y trouve pas quelque chose dans l'analyse grammaticale proprement dite? Est-ce qu'on ne peut pas y trouver des idées? Je ne sais pas. Comment l'idéologie éventuellement se traduit dans les termes, la façon dont les verbes sont utilisés? C'est juste une question.
C'est possible et c'est une spécialité qui est l'analyse du discours et qui n'est pas la mienne.
D'accord, voilà une piste pour les chercheurs.
Là, Nasir Chama, qui est un oudiste irakien, ce morceau est une musique qu'il dédie aux martyrs des printemps arabes. C'est votre choix musical pour terminer cette émission?
Oui. Alors, pourquoi ce choix? Donc, au début, je n'avais pas de raison pour le choisir, je l'ai aimé. Mais en tant que linguiste, je peux toujours trouver une raison, si vous voulez.
Vous
c'est
obligé.
Notre matière aussi, c'est notre métier de trouver la parole. En fait, Nasir Chama, c'est un oudiste irakien. Et l'Irak, pour moi, c'est la deuxième tragédie dans cette région. Quelque chose qui est en train de se dissiper entre nos mains, en fait, l'Irak et la Syrie. Et j'ai voulu concilier les deux, la Syrie et l'Irak, à travers
cette musique.
Ouais.
Merci beaucoup Nisrine Al-Zahar et merci d'être venue au micro de la Grande Table. Merci à vous Leïla Dakhli d'être venue également et je rappelle que ce colloque commence tout à l'heure à 14h d'ailleurs par une introduction que vous allez faire. Vous n'êtes pas la seule Leïla Dakhli, il y en aura d'autres. Une introduction donc à 14h aujourd'hui et demain, c'est à l'École des hautes études en sciences sociales. L'entrée est publique et gratuite. Il suffit de se présenter.
Boulevard
Raspail à Paris. Si si on habite à Paris. Et je pense qu'il y aura une suite sur Internet pour ceux que cela intéresse. Merci beaucoup d'être venus à toutes les deux. De toute façon, toutes les informations sur ce colloque seront sur notre page de La Grande Table, sur notre site franceculture.fr. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Allégos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. À la réalisation aujourd'hui, c'était Annabelle Brouard et à la prise de son, Bruno Gagnère-Fontanille.